Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, le FMI et la crise en Argentine.
Oui, le Fonds monétaire international a-t-il changé? Il lui est bien arrivé de reconnaître des erreurs, celle par exemple d'avoir refusé à la Grèce de renégocier sa dette en 2010 et de lui avoir administré dans l'urgence et sans l'avoir tellement réfléchi avant une véritable purge d'austérité en échange d'un prêt de 30 milliards d'euros complété par les États européens. En 2019, c'est l'Argentine qui replonge dans la crise malgré un prêt l'année dernière de 57 milliards d'euros, le plus gros prêt que le FMI ait jamais accordé dans son histoire depuis 1944. Quelle est la part de responsabilité de l'Organisation financière internationale? A-t-elle cherché à s'adapter depuis le temps qu'elle le connaît, ce dossier argentin? Bonjour Anne-Laure Delatte.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la directrice adjointe du CEPI, qui est donc un centre d'études et de recherche en économie internationale. Quand Christine Lagarde, qui quitte ses fonctions de directeur général du FMI dans quelques semaines, reconnaît avoir sous-estimé la situation extrêmement compliquée, je la cite, de l'Argentine, elle est compliquée en quoi cette situation argentine, en quoi elle l'est davantage que la situation grecque, équatorienne ou encore togolaise?
Finalement, c'est une façon assez diplomatique de dire que l'Argentine est proche d'une situation insoutenable où les investisseurs vont refuser de prêter à l'Argentine pour qu'elle rembourse ses dettes. En fait, comme vous le disiez, le Fonds monétaire international, il y a un an, a consenti le prêt le plus important de son histoire. Des réformes ont été mises en place. Le déficit budgétaire, c'est-à-dire la différence entre les dépenses et les recettes de l'État, le déficit commercial, c'est-à-dire la différence entre les exportations et les importations, tout ça s'est amélioré. Et pourtant, la situation politique s'est dégradée au printemps environ, et là très récemment, et donc les capitaux sortent et le peso plonge. Et en fait, quel est le problème avec le fait, le peso, c'est la monnaie argentine. Le gros problème, c'est que la dette extérieure argentine est essentiellement dénominée en peso, ce qui veut dire que quand le peso perd de sa valeur, l'Argentine doit dégager encore plus de revenus pour rembourser ses créanciers.
Bah, toujours le dollar au centre. C'est parce que le peso s'effondre par rapport au dollar que la dette n'est plus soutenable.
Oui, c'est le problème du péché originel, mais pas simplement de l'Argentine, hein, de beaucoup de pays émergents qui empruntent en dollars parce que les investisseurs leur prêtent dans une monnaie dans laquelle ils ont confiance, qui n'est pas volatile comme le peso. Là.
Alors, parmi les mesures prescrites par le FMI, comme à chaque fois d'ailleurs que le FMI vient en aide à un pays, lui prescrit cette ordonnance du consensus dit de Washington. Dans le cas de l'Argentine, il a fallu arrêter de subventionner l'énergie, l'eau ou les transports qui perturbaient, disait le FMI, le bon fonctionnement de l'économie. Bon, pour certaines familles, c'était le seul moyen d'avoir accès à ces services. Il a obligé l'Argentine à emprunter sur les marchés internationaux pour financer le déficit public, ce qui a augmenté, vous le disiez, son endettement en dollars. Depuis le temps que le FMI connaît le dossier argentin, qui a déjà fait l'Argentine 8 défauts de paiement, qui a appelé 21 fois le FMI à l'aide, est-ce que le FMI a ne serait-ce que cherché à adapter un peu ses recettes, à reconsidérer de temps en temps ses prescriptions à l'aune de la situation et notamment sociale?
Alors, vraiment, je crois que c'est important de comprendre que le consensus de Washington a été extrêmement critiqué, notamment par Joe Stiglitz, hein, qui a reçu le prix Nobel en 2001 et qui était l'ancien chef économiste de la Banque mondiale. Il a énormément critiqué le consensus de Washington. Pourquoi Washington? Parce que les deux institutions internationales, la Banque mondiale et le FMI, sont à Washington. Et ça, ça fait presque 20 ans en fait que ces critiques ont été formulées et finalement, il y a quand même quelques réformes qui ont été mises en place au fond comme à la banque. Quelles étaient les critiques essentielles? On les connaît tous, hein. Le FMI met en place des politiques néolibérales extrêmement difficiles, c'est-à-dire prône l'austérité avec un coût social désastreux et ça n'est pas efficace. La deuxième critique qui a été formulée, c'est que c'est une perte de souveraineté en fait de la part des gouvernements. C'est-à-dire que vous aviez la mission du FMI qui arrive en général entre pour 15 jours ou 3 semaines et qui va imposer des conditionnalités très fortes au gouvernement, les fameux plans d'ajustement structurel qui donnent très peu de place et de négociations avec les gouvernements.
Et aujourd'hui, il y a des voix discordantes au sein du FMI pour remettre ça en cause ?
Alors, en fait, ça fait vraiment, ça doit faire une quinzaine d'années que ces voix ont pris de l'importance. Et là, ce qui est frappant avec l'Argentine aujourd'hui, c'est que autant, je pense que le FMI a encore des réformes très importantes à faire, et vous l'avez dit, l'austérité est encore une recette. Mais là, je crois que tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il y a eu un vrai dialogue avec le gouvernement, et même l'opposition, même Kirchner, ne critique pas l'intervention du FMI et dit, en tout cas, cette opposition dit qu'ils maintiendront le dialogue avec le FMI s'ils gagnent.
Voilà, Alberto Fernandez, notamment, qui a remporté la primaire et donc qui est pressenti pour être le prochain président argentin. Alberto Fernandez étant de gauche, alors que son Mauricio Macri, qui est toujours aujourd'hui au pouvoir, est un libéral qui a de très bons rapports avec Donald Trump. Qu'est-ce que les États-Unis attendent de l'Argentine ? On sait combien les États-Unis pèsent aujourd'hui dans les décisions du FMI. Qu'est-ce que les États-Unis attendent de l'Argentine pour lui avoir accordé un tel prêt, 57 milliards de dollars encore une fois l'année dernière, sans vote du Parlement argentin d'ailleurs.
Alors, vous mettez en évidence les États-Unis comme si les États-Unis étaient le seul décisionnaire au FMI. Certes, il faudrait être naïf pour ne pas avoir en tête qu'effectivement c'est le premier actionnaire du fonds, c'est-à-dire qu'il a il a le droit de vote le plus important. C'est le plus gros contributeur, et en plus le fonds est à Washington. Donc évidemment, c'est un instrument d'influence. Mais attention, il y a une gouvernance quand même au FMI, et ça n'est pas les États-Unis qui décident ou pas de prêter. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont un droit de veto, donc il faut l'avoir en tête.
Par exemple, Anne-Laure Delatte, est-ce qu'il a été outrancier de dire en avril, quand le FMI a accordé à l'Équateur cette fois un prêt de 4 milliards et 2 millions de dollars, c'était en mars, est-ce qu'il est outrancier de faire un lien avec le fait que l'Équateur a fait arrêter Julian Assange à l'ambassade équatorienne de Londres un mois plus tard ?
Il faudrait être naïf pour ne pas prendre en compte l'économie politique de ces grandes institutions. C'est-à-dire que les États-Unis sont un gros contributeur et le fonds est un instrument d'influence. Il y a une dimension géopolitique, certes. Maintenant, comment je peux vous répondre à ça si on n'a pas de transparence ? C'est-à-dire que ce qui est important, et une des réformes qui n'a pas été mise en place au FMI, à mon avis, c'est que on n'a pas suffisamment de transparence sur les décisions qui sont prises et les processus de décision pour être capable de juger et de répondre à la question précise que vous avez posée.
Alors, au-delà de la transparence sur les remèdes, en 2013, l'économiste en chef du FMI, Olivier Blanchard, avait reconnu que le FMI avait fait des erreurs dans la gestion de la crise grecque. Donc, sur quelles erreurs a-t-il travaillé depuis et sur lesquelles a-t-il essayé de remédier ?
Alors, premièrement, je vous disais au départ que la critique sur les politiques néolibérales, la perte de souveraineté, ça, le FMI a travaillé dessus. On est plus en dialogue aujourd'hui. Et par exemple, en Argentine, les dépenses sociales, certaines dépenses sociales sont isolées en fait des politiques d'austérité. C'est-à-dire que on a demandé à l'Argentine de dépenser plus d'1% de son PIB, de continuer à dépenser plus d'1% de son PIB pour des dépenses sociales afin de protéger les populations les plus fragiles.
Et ça, c'est nouveau.
C'est nouveau. Si vous voulez, le Fonds monétaire est conscient, de toute façon, une politique qui est impopulaire ne fonctionnera pas. Parce que une politique impopulaire va déstabiliser la situation politique dans le pays, et ça, c'est un facteur que les investisseurs détestent. Ils détestent l'instabilité politique. Donc, d'une certaine façon, si on veut être sarcastique, je crois que le FMI a intégré dans son logiciel depuis une vingtaine d'années que le coût social a un coût politique et finalement un coût financier. Maintenant, sur la Grèce, effectivement, Blanchard avait admis que le FMI est arrivé trop tard et trop peu C'est-à-dire qu'on a prêté trop peu et trop tard à la Grèce. On a mis en place des politiques extrêmement difficiles. Mais là, je crois qu'il faut vraiment admettre la responsabilité de l'Europe. C'est-à-dire que ce sont nous, les Européens.
Mmh. C'est des pays créanciers qui n'ont pas voulu redégocier la
pression. Oui. Donc là, je pense qu'on peut... il y a énormément de choses à faire. Et notamment cette transparence et cette gouvernance au FMI qu'il est essentiel de faire évoluer pour que la société civile ait un œil sur cette dimension géopolitique, sur la zone d'influence qu'elle peut que le FMI peut exercer. Mais sur la Grèce, je pense qu'on
C'est différent. Anne-Laure Delatte, pour conclure, on a vraiment que quelques secondes. En 2017, la Banque Centrale Européenne avait révélé que les sommes prêtées à la Grèce entre 2012 et 2016 lui avaient rapporté 7,8 milliards d'euros d'intérêts. Est-ce que les pays dits actionnaires du FMI gagnent de l'argent sur les prêts accordés à l'Argentine?
Non, c'est pas. Je pense que c'est pas si simple que ça, et en tout cas, ça n'est pas l'objectif de ces institutions. En fait, l'objectif de ces institutions, c'est de mettre en place une coordination multilatérale. Donc, je crois que c'est ça le grand défi aujourd'hui. Avant de se poser des questions de est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec l'Argentine, finalement, ceux qui gagnent de l'argent avec l'Argentine, ce sont les créanciers privés, hein, pas les gouvernements.
Les banques. D'accord. Merci beaucoup, Anne-Laure Delatte, d'avoir été avec nous. La nouvelle présidente du FMI, Kristalina Georgieva, prendra ses fonctions bientôt et ce sera l'occasion de faire un point sur ses missions et ses dossiers prioritaires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.